VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manilakis en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. C'est un plaisir de vous présenter cette première édition de la soirée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du vendredi 17 mars, dont voici d'abord les points essentiels. Drame migratoire en mer Rouge large du Yémen, une quarantaine de réfugiés somaliens ont péri.
Le drame est survenu après que l'embarcation des réfugiés a été visée par une attaque armée.
Jacques Aristide raconte les circonstances de cette nouvelle tragédie. La justice sud-africaine inflige un nouveau revers à Jacob Zuma et annule sa nomination en chef de la police. Ils ont cotisé pendant plus de 30 ans, mais ne peuvent pas toucher leur pension de retraite.
Où sont partis les frais de cotisation sociale retenus à la source par la Gécamines de ses anciens agents?
L'argent retenu n'a jamais été versé à l'Institut de Sécurité Sociale. Vous entendrez Narval Mabila. Washington n'exclut pas une action militaire contre Pyongyang pour anéantir sa menace nucléaire. Et Angela Merkel rencontre Donald Trump à la Maison Blanche. Et à suivre, après le journal, l'économie et les sports. L'itinéraire migratoire africain frappé par une nouvelle tragédie. Plus de 40 réfugiés somaliens ont été tués hier soir par des tirs en mer Rouge au large du Yémen. Les victimes sont pour la plupart des femmes et des enfants. Le bilan fait aussi état de 35 blessés. Le Yémen est ravagé par la guerre qui n'empêche pas pour autant l'afflux de migrants qui fuient la misère et les violences de la Corne de l'Afrique. N'est-ce pas, Jacques?
Les corps des victimes somaliennes ont été transportés dans les hôpitaux de la ville portuaire de Hodeïda, théâtre en ce moment de violents combats entre les rebelles chiites houthis et les forces favorables au gouvernement yéménite. Le drame est survenu après que l'embarcation des réfugiés a été visée par une attaque armée. Pour l'heure toutefois, le lieu et les circonstances exactes de l'attaque demeurent inconnues, les belligérants au Yémen se renvoyant la responsabilité. Les rebelles qui ont pris possession du bateau à son entrée aujourd'hui dans le port de Hodeïda l'ont immédiatement imputé à l'aviation de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. Mais d'après son responsable portuaire, les morts et les blessés ont été atteints par des tirs d'armes légères, ce qui semble exclure une attaque aérienne. Et d'ajouter que des dizaines d'autres Somaliens qui ont survécu à l'attaque, ainsi que trois trafiquants yéménites arrivés à bord de l'embarcation, ont été conduits vers la prison centrale de la ville. À Genève, un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations dit croire que l'embarcation faisait route vers le Soudan. Au moment de l'attaque, le bureau à Sanaa du Haut Commissariat pour les réfugiés se dit profondément affligé par le drame. En dépit de la guerre et de la crise humanitaire qu'il traverse, le Yémen continue d'attirer des réfugiés de la Corne de l'Afrique. Plusieurs camps de réfugiés somaliens existent dans le sud du pays, mais aucun dans la région de Hodeïda, située plus au nord.
Jacques Aristide, les pirates somaliens qui se sont emparés lundi du pétrolier Aris 13 ont libéré hier le navire et ses 8 membres d'équipage sri-lankais qui retenaient en otage. Selon un responsable pour l'Afrique de l'Est et de l'ONG de lutte contre la piraterie, Oceans Beyond Piracy, les gardes-côtes du Puntland, région semi-autonome de Somalie, ont fait aux pirates une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. C'était la première attaque réussie d'un navire commercial au large de la Somalie depuis 2012. Ce navire s'est dirigé vers la ville portuaire de Bosaso, capitale économique du Puntland. En Ouganda, le porte-parole de la police Andrew Kawesi a été abattu aujourd'hui à Kampala à bord de son véhicule. Il était accompagné de 2 autres policiers qui ont aussi succombé dans cette attaque menée par des hommes lourdement armés. Le mobile est encore inconnu selon l'inspecteur général Kale Kayihura. Au Soudan du Sud, 2 personnes sont mortes dans une attaque armée contre un convoi humanitaire. 3 autres ont été blessés. L'Organisation internationale pour les migrations a dénoncé l'insécurité chronique des attaques dont sont victimes les humanitaires qui tentent de venir en aide à la population de ce pays frappée par une famine. Au Burundi, des pluies torrentielles mêlées à des vents violents ont fait au moins 6 morts dans 3 localités du pays. Ces pluies ont provoqué des glissements de terrain et des débordements de caniveaux. Plusieurs provinces du pays ont été touchées. Pour le moment, l'on compte également 162 maisons détruites. Mais le bilan des dégâts serait très lourd. Le vice-président Gaston Sindimo a parlé d'une véritable catastrophe. Au Nigeria, 3 personnes sont mortes hier à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, dans un incendie qui a ravagé un camp de déplacés. Ces derniers ont fui les violences de Boko Haram. Le site a accueilli plus de 6200 personnes sinistrées. Nouveau revers pour le président sud-africain Jacob Zuma. La justice du pays arc-en-ciel a annulé la nomination du patron de l'unité d'élite de la police du pays en charge des crimes de sang et de corruption les plus graves. Abdourahmane Dia.
Le général Bernard Lemesa avait été nommé en 2015 par le gouvernement à la tête de la direction des enquêtes sur les crimes prioritaires. Mais un tribunal l'avait précédemment jugé malhonnête et manquant d'intégrité il y a 2 ans. Il a notamment été reconnu coupable d'avoir menti sous serment. Malgré ce jugement défavorable, le ministre de la police l'avait quand même nommé à la tête des Hawks. Donc 2 associations ont saisi la haute cour de Pretoria et ont obtenu gain de cause. Selon la haute cour, le ministre n'a pas évalué correctement le jugement rendu par le précédent tribunal, ni apprécié les doutes sérieux qui pesaient sur son aptitude à occuper ses fonctions. Depuis quelques années, la police sud-africaine est secouée par une série d'affaires qui ont mis en cause plusieurs de ses chefs dans un pays affecté par une forte criminalité. En 2015, sa chef Ria Fiega avait été suspendue après le massacre de Marikana 3 ans plus tôt, au cours duquel 34 mineurs en grève avaient été abattus par la police.
La candidate d'extrême droite à l'élection présidentielle française sera au Tchad en milieu de semaine prochaine. Marine Le Pen rendra visite aux soldats de la force française à Barkhane et rencontrera les militaires français mercredi 22 mars au Kigé de la force à N'Djamena. Le roi du Maroc a nommé aujourd'hui un nouveau premier ministre issu des islamistes. Saad Din El Othmani doit tenter de former un gouvernement après 5 mois de blocage. Au Gabon, des syndicats font recours à plusieurs institutions internationales pour exercer des pressions sur les autorités de Libreville pour faire respecter les droits des travailleurs et les droits de l'homme. C'est notamment l'Union européenne, l'Union africaine et l'Organisation internationale du travail. Le Parlement angolais a reporté son vote final sur un projet de loi controversé réprimant l'IVG. Ce texte a même fait l'objet de vives critiques de la part de la fille du président José Eduardo dos Santos. L'avortement est puni de peines allant jusqu'à 10 ans de prison, mais le précédent texte le permettait notamment lorsque la vie de la mère est en danger ou en cas de viol. Ces exceptions ont été retirées du texte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Premier tête-à-tête entre la chancelière Angela Merkel et le président Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est une rencontre qui était très attendue et confronte deux dirigeants au parcours hostile au droit au choix politique radicalement différent. Nathalie Barge.
Donald Trump a reçu Angela Merkel avec la volonté de mettre en avant la solidité des liens entre les deux pays alliés après une série d'échanges tendus. Au cours des semaines écoulées, il s'en était pris avec virulence à l'Europe, louant le Brexit et prédisant que d'autres pays quitteraient l'Union. Mais il avait aussi attaqué frontalement l'Allemagne, dénonçant son rôle par trop dominant et qualifiant sa politique d'accueil des réfugiés de catastrophique. Pour Angela Merkel, qui vise un 4e mandat, cette visite vise à confirmer la vigueur des liens transatlantiques, économiques comme militaires, tout en gardant une certaine distance avec l'équipe de Donald Trump. Pour faire écho à la visite de la chancelière aux USA, la ministre allemande de l'économie a laissé planer aujourd'hui même la menace d'une plainte de l'Allemagne à l'OMC au cas où Washington concrétiserait son projet de taxe d'ajustement aux frontières. De son côté, la Maison-Blanche avait clairement l'intention d'aborder la question de l'excédent commercial allemand.
C'était les détails de Nathalie Barge. Washington hausse le ton contre Pyongyang. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson brandit la menace d'une action militaire pour contenir le programme nucléaire de la Corée du Nord. À Séoul, M. Tillerson attire l'attention sur l'échec de la patience stratégique, jusque-là privilégiée depuis 20 ans. Salwa Jafari.
La tournée de Tillerson intervient quelques jours après des tirs de missiles balistiques présentés par Pyongyang comme un exercice visant les bases américaines au Japon. Le secrétaire d'État n'a pas manqué de dévoiler la nouvelle approche de Washington.
Soyons très clairs, la politique de patience stratégique est terminée. Nous explorons une nouvelle gamme de mesures diplomatiques, sécuritaires et économiques.
Environ 28 000 soldats américains sont déployés en Corée du Sud, mais la capitale Séoul est à portée de l'artillerie nord-coréenne. La Russie a appelé vendredi les États-Unis et la Corée du Nord à sortir du cercle vicieux de l'escalade militaire. Le Nord a essuyé plusieurs volées de sanctions de l'ONU qui ne l'ont pas incité à changer de politique.
Le Japon anticipe déjà une attaque éventuelle nord-coréenne. Une centaine de personnes ont participé aujourd'hui au premier exercice d'évacuation organisé en cas d'attaque de missiles par la Corée du Nord. Cet entraînement mené à Oga, une ville côtière du nord du Japon, intervient moins de deux semaines après le tir par Pyongyang de plusieurs engins en direction de l'archipel nippon. Trois sont tombés au large de cette agglomération de près de 29 000 habitants. Et au Yémen, au moins 26 soldats des forces pro-gouvernementales ont été tués, 40 autres blessés. Ils ont été la cible des tirs des missiles rebelles aujourd'hui qui ont visé la mosquée d'un camp militaire à l'est de Sanaa. Et voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Votre moment de suivre l'actualité économique en Afrique, la chronique de la Muniteco signée Claire Morin-Gibault.
Au Maroc, la cinquième édition du FIAD, le Forum international Afrique Développement, a été lancée. Outil de renforcement de la coopération Sud-Sud, ce forum est placé cette année sous le signe de la croissance inclusive. Inauguré hier par Roch Marc-Christian Caboret, le président du Burkina Faso, acteur privé et public de plus de 20 pays du continent, échange idées et opportunités. Trois entreprises ayant le plus contribué au développement intra-africain vont être récompensées, ainsi que trois jeunes entrepreneurs. Lumière, puissance, action, électrifier l'Afrique. C'est le dernier rapport publié par l'Africa Progress Panel, le think tank dirigé par Kofi Annan. Au sommaire, les kits solaires, depuis les simples lampes jusqu'au système domestique complet capable d'alimenter des équipements électroménagers et les mini-réseaux électriques. Des solutions qui n'ont pas vocation à remplacer, mais à compléter les grands réseaux nationaux afin de combler le déficit énergétique.
Nous passons directement au sport. Et oui, l'on change de temps et de style avec Dili Dico ce soir. Bonsoir Dili.
Bonsoir Eric.
L'on parle de la Ligue des Champions, Bayern contre Real et Juve Barça en quart de finale.
Oui, tout à fait Eric. Deux finales avant l'heure. Les affiches Bayern-Real et Juve-Barça animeront les quarts de finale de la Ligue des Champions aux côtés des oppositions Atlético Madrid-Leicester et Dortmund-Monaco. Yann Rush, l'ancien buteur de Liverpool, a eu la main lourde vendredi au siège suisse de l'UEFA au moment du tirage au sort des quarts prévus les 11-12 aller et 18-19 avril retour.
Parle-nous de ce match Bayern-Real, Tico.
Alors, ce sont deux équipes qui ont une très longue tradition. Ça pourrait être une finale, selon Emilio Butragueno, représentant du Real. Il a ajouté qu'il aurait aimé affronter cette équipe un peu plus tard, car il s'agit d'une rencontre à risque.
Tant qu'on parle de finale avant l'heure, il y a aussi Juve-Barça.
Tout à fait, cette affiche était celle de la finale en 2015, remportée par l'équipe de Lionel Messi 3-1. Deux ans plus tard, le Barça apparaît moins souverain, mais son historique remontada face au Paris Saint-Germain, 6-1 au retour après un revers, 4-0 à l'aller, a singulièrement rehaussé sa cote. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu le 21 avril et la finale se tiendra le samedi 3 juin à Cardiff.
Un mot sur l'Europa League, Dili ?
Tout à fait. Manchester United, le favori, a hérité d'un adversaire facile sur le papier en quart de finale de l'Europa League avec Anderlecht. Selon le tirage au sort effectué aujourd'hui au siège de l'UEFA à Lyon, en Suisse, le club de José Mourinho aura l'avantage de recevoir au match retour le 20 avril après l'aller en Belgique le 13.
Merci Dili. Il faut souligner qu'au NBA, championnat de basket nord-américain, Golden State a repris sa marche en avant en écrasant Orlando 122-92. C'était hier soir, Dili.
Tout à fait, c'était hier.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique, pour aborder les dossiers du monde aujourd'hui. En RDC, les retraités de la Gécamine, la société minière, dénoncent un flou dans l'attribution de leurs assurances sociales. Ils réclament aussi à l'INSS, l'Institut des Sécurités Sociales, le paiement de leurs pensions. Ils affirment avoir régulièrement cotisé durant toute leur carrière professionnelle. Narval Mabila.
Ils sont plus de 800 retraités de la Générale des Carrières et des Mines qui n'arrivent pas à toucher le paiement de frais de pension à l'Institut National de Sécurité Sociale après avoir cotisé pendant plus de 30 ans. Madame Julie Maloba, retraitée depuis 2013, lève la voile.
Aujourd'hui, je devais aller parce qu'on fait la réunion sur la ville Mouro. Il fallait aller là-bas, sur le bâtiment INTC. On réclame que l'INSS... Parce que chaque pays, l'INSS retirait ce qu'il devait. Toutes les formalités qu'on avait demandées, la mairie.
Sur chaque fiche de paye, la direction de ressources humaines retenait à la source les frais de cotisation sociale destinés à l'Institut national de sécurité sociale qui ne s'est pas payé pour n'avoir jamais reçu les versements des cotisations de la part de la Gécamine. Monsieur Vincent Depol Kibwe-Kasongo, directeur provincial de l'UNSS, nous donne des explications face à cette situation.
Le problème de la Gécamine n'est pas très différent de celui de beaucoup de sociétés d'État. En ce qui concerne la particularité du cas Gécamine, c'est que vous avez remarqué, cela doit remonter à la fin de l'an 2015. Nous avons signé un protocole d'accord avec la Gécamine, lequel protocole d'accord stipulait clairement qu'au début de l'année qui devait suivre, la Gécamine devait commencer à exécuter le paiement tel que convenu avec l'INSS pour permettre à l'INSS d'assurer la pension de prestataire. Cela n'a pas eu lieu. Les négociations se sont poursuivies et se poursuivent. Dans l'entretemps, nous ne cessons de recevoir les pensionnés de la Gécamine, auxquels pensionnés nous expliquons la situation par rapport au fait que le problème se situe plutôt dans les camps de la Gécamine.
Où sont partis les frais de cotisation sociale retenus à la source par la Gécamine de ses anciens agents? La direction générale de la Gécamine, très embarrassée par cette question, a préféré l'omerta. Mais dans les coulisses, la réponse est simple, c'est un dossier interne. C'est un dossier où il y a à boire et à manger. Certains se sont fait engraisser pour taire le dossier et d'autres font l'objet de menaces de mort. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Et de l'Afrique centrale des Grands Lacs, nous nous rendons dans le Sahel, au Burkina Faso. L'opérateur de télécommunications Orange a lancé hier ses activités après le rachat d'Airtel Burkina. Les consommateurs de téléphonie mobile d'Internet espèrent en tirer profit sur les coûts et la qualité des services. Nous retrouvons Zoumana Onogo dans la capitale des hommes intègres.
Exit Airtel Burkina et place à Orange Burkina. Qu'en pensent les citoyens?
Je souhaite une bonne arrivée pour Orange, mais je souhaite beaucoup, surtout, on aura réduit la consommation, le prix de la consommation. Vraiment, c'est cher. Tu mettras comme Airtel, ça ne va pas marcher.
Pour moi, ce n'est pas le changement de nom qui est important, c'est la consommation. Si c'est moins seulement, on travaille ensemble. L'essentiel, c'est la qualité.
J'ai une puce Airtel qui est devenue Orange maintenant. Mais très souvent, avec la puce-là, j'aime me connecter sur le net. Je trouve souvent que la connexion, c'est pas ça.
Nous avons repris les mêmes critiques sur le coût et la qualité avec le directeur général de Orange Burkina, Ben Cheikh Aïdara. Voici sa réponse.
Payer moins, bien entendu, il y avait ces reproches qui étaient faits à Airtel. Donc aujourd'hui, Orange écoute son marché et va travailler à mettre en place des offres d'abondance, de générosité à travers les bonus Wakati. Et ça, ça va se poursuivre pour que les clients puissent véritablement communiquer à des prix très accessibles et avec une excellente qualité de réseau.
Pour atteindre les objectifs fixés, le directeur général adjoint de Orange annonce des investissements. On écoute Bruno Metling.
Avant la fin de l'année, Orange Burkina Faso va financer un cadre en fibre optique qui va relier, après le câble que nous avons financé vers le Ghana, qui va relier le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire et donc au Mali, et donc une nouvelle liaison qui va sécuriser celle qui existe déjà. Donc pour les citoyens de ce pays, ça veut dire concrètement une amélioration de la qualité de l'Internet. Ça veut dire la capacité à offrir plus de réseaux, d'avoir une meilleure qualité et sans doute d'améliorer encore nos offres sur les prix.
Le rachat des entreprises va souvent avec dégraissement du personnel. Qu'en est-il avec les travailleurs du RTL devenu Orange? Clotilde Bourri, la directrice des ressources humaines, explique.
On a montré déjà depuis qu'on est là qu'on n'a pas fait de plan d'action pour réduire les effectifs. Les effectifs aujourd'hui sont bien dimensionnés. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui sur l'emploi. Tous les salariés qui étaient dans l'entreprise, il y avait 260 salariés le jour où nous avons acquis cette société. Aujourd'hui, il y en a 263. Nous sommes complètement dans la stabilité de l'emploi.
Zoubana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Parlement angolais n'a pas légiféré sur l'avortement. Un projet de loi controversé a fait l'objet de vives critiques de la part de la fille du président José Eduardo dos Santos. En Afrique, plusieurs pays punissent l'IVG de peine de prison. Au Sénégal, par exemple, des filles mineures victimes de viol ou d'inceste ont été incarcérées. Et face à cette situation, l'Association des juristes sénégalaises a mis en place un comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé. Nathalie Barge a joint à Dakar la coordinatrice de cette association, Ami Sako.
Actuellement, la législation sénégalaise est contre l'avortement. Il n'est autorisé que si la santé de la mère est menacée et que c'est la seule intervention pour permettre à la femme de rester en vie.
Donc, en cas de viol ou d'inceste, l'avortement n'est pas autorisé?
Non, du tout.
Et quelles sont donc les peines encourues pour les femmes et les filles qui se font avorter donc au Sénégal?
C'est de 1 à 5 ans avec des amendes à payer à l'État. Donc si c'est le personnel de santé ou bien si la personne a eu à le faire à plusieurs reprises, c'est de 5 à 10 ans.
Et est-ce que vous connaissez des cas justement de jeunes femmes notamment qui sont actuellement en prison pour cela?
Oui, parce que nous avons eu à faire une étude au niveau des prisons des femmes du Sénégal. Et il se trouve que 3% de la population carcérale féminine est dans les prisons pour cause d'avortement clandestin.
Quelle est la tranche d'âge de ces femmes?
C'est entre 40 et 13 ans, parce qu'il y a eu, lors de notre dernière visite, il y a eu deux mineurs qui étaient en prison pour cause d'avortement et pour cause d'infanticide.
Alors parlez-nous justement de votre demande d'autoriser à travers la loi l'avortement médicalisé.
Donc notre demande c'est l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol, inceste et quand la santé de la mère est menacée dans le sens du protocole de Maputo que le Sénégal a ratifié en 2004 et qui est entré en vigueur en 2005.
Vous heurtez cependant à l'opposition, à la résistance des oulémas et des religieux catholiques. Qu'y a-t-il à dire à ce sujet-là?
Je ne pourrais pas affirmer ce que vous venez de dire parce qu'au niveau du comité de plaidoyer, on travaille avec le réseau Islam et Population. On travaille avec d'autres réseaux religieux, surtout la religion islamique. Donc, c'est des religieux qui sont avec nous, qui sont d'accord pour le plaidoyer parce qu'ils nous ont dit que dans les conditions que nous voulons avoir l'avortement, l'islam autorise l'avortement. Par contre, pour la religion catholique, ils nous ont dit que leur religion est catégoriquement contre. Là aussi, ce n'est pas la quasi-totalité des religieux qui sont avec nous, mais en tout cas, il y a des religieux qui nous soutiennent, qui sont avec nous. Là aussi, on est conscient qu'on ne peut pas avoir une loi où tout le monde sera d'accord à l'unanimité, surtout concernant une question sur l'avortement médicalisé. Mais en tout cas, on travaille avec des religieux qui sont d'accord sur le projet de loi.
Ami Sako, coordonnatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé au Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'Afrique reste confrontée au problème du chômage. Le rythme de sa croissance démographique excède celui de la création d'emplois. L'entrepreneur nigérien Tony Elumelu estime qu'il appartient au secteur privé d'impulser la croissance économique pour résorber le chômage. Messieurs et Lumelu préconisent une philosophie qu'ils nomment Africapitalisme. Les précisions de Lionel Gahima.
50% des diplômés sortants chaque année des universités africaines se retrouvent au chômage, constate Kevin Balogun, président de Coca-Cola pour l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, le taux de chômage des jeunes est presque de 12% en Afrique subsaharienne. Les dirigeants africains se sont engagés à réduire le taux de pauvreté sur le continent dessous de 20% d'ici 2030. Pour l'entrepreneur Tony Elumelu, les entrepreneurs peuvent contribuer à ce projet à travers des partenariats suivant son concept d'Africapitalisme, ainsi qu'il l'a récemment expliqué aux étudiants de l'Université du Ghana. Le partenariat fonctionne mal en Afrique et nous devons trouver une solution parce que l'effort commun est mieux que l'effort solitaire. Je pense que la confiance est très importante. Ainsi, l'agencement des intérêts est la solution clé pour remédier aux échecs de partenariat en Afrique. C'est ici qu'intervient l'Africapitalisme, c'est-à-dire le fait que pour les Africains d'approcher le développement avec une perspective du secteur privé, a souligné Tony Elumelu. Personne d'autre ne développera l'Afrique à la place des Africains, a-t-il dit, ajoutant qu'il faut éveiller la conscience des dirigeants africains à cette réalité. En attendant, les jeunes Africains ne sont pas rassurés par les possibilités d'emploi. John Amoakusi, en programme de master à l'Université du Ghana, dit qu'il retournera à l'université s'il n'arrive pas à se faire recruter par une entreprise.
One of the options is trying to look for PhD.
L'autre option est de m'inscrire à un programme de PhD au Ghana ou à l'étranger. Oui, je veux acquérir de l'expérience. Même souci chez Paris Aloté en première année à l'Université du Ghana.
Je suis très inquiète parce que le chômage n'est pas une bonne chose. Je pense donc trouver une formation en leadership ou trouver un stage ou m'inscrire en master. Faire quelque chose qui va me donner la chance d'accéder au travail.
Le problème de chômage s'est empiré au Ghana suite à 4 années de perturbations de l'approvisionnement en électricité qui ont provoqué la fermeture de beaucoup de commerces et d'entreprises et la perte de milliers d'emplois.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Il faut bouger, vous l'entendez. On a déjà commencé un week-end rythmé ici à Washington, à la Voix de l'Amérique. Georges Léonard Sagno a assuré la mise en onde. Michel Joseph est déjà là. Notre ingénieur à la console, c'est Nick Ivanov. C'est la fin de cette édition. À la présentation, vous étiez en compagnie d'Eric Manilakidza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités 24 heures sur 24. Je vous retrouve à 19h30 pour la 3e édition. Au revoir.